Donc, je suis heureux d'être délégué par Sœur Noël qui dirige ce séminaire sur l'Europe. Non, mais j'ai pas une bonne voix et le micro est trop court.
Ah, voilà.
Les femmes dans l'église.
Voilà. Je voudrais vous partager pour commencer une émotion que j'ai eue lorsque nous avons visité le Parlement européen il y a 3 semaines. Il y avait cette hall-là avec 751 sièges dans lequel les parlementaires de 27 ou 28 pays se réunissent. Et vraiment, j'ai été saisi en pensant, pendant des siècles, même les plus ardents défenseurs et artisans de la paix dans l'humanité n'ont pas osé rêver d'un parlement où des parlementaires de différentes nations travailleraient ensemble pour la paix. Pendant des siècles, c'était même pas pensable, et pourtant, s'ils avaient pu, ils l'auraient désiré de tout leur cœur. Et nous l'avons. C'est une œuvre historique inouïe, et il faut rester conscient de ce qui nous est arrivé, qui nous a menés jusque-là. Alors, pour notre institut, l'Europe est un sujet théologique. Nous croyons que ce qui est arrivé en Europe depuis des siècles, et qui a abouti d'abord en Europe occidentale, puis qui s'est étendu à l'Union européenne, fait partie de l'histoire du salut. Bien entendu, il ne faut pas être chrétien pour que les valeurs qui se sont diffusées grâce au christianisme en Europe soient imitables et ailleurs. Il y a des Japonais qui regardent le système social européen dont nous allons parler ce soir avec envie, avec désir. Les Africains et les Latino-Américains aimeraient avoir une sécurité sociale comme la nôtre. Donc il ne faut pas être chrétien pour que ces valeurs puissent être diffusées. Mais nous sommes quand même ceux qui avons été mis en contact avec la racine de ces valeurs et de ces éclosions. Et je suis heureux de pouvoir dire ce soir, nous accueillons M. Patrick de Veltere. Il est le témoin par sa spécialité, donc c'est quelqu'un qui donne un cours sur l'économie sociale, donc les économies solidaires. Et en fait, si on regarde d'où vient le système social européen, de l'État-providence, ce sont des initiatives individuelles qui sont les créations d'écoles par des religieuses au Moyen-Âge, puis les créations d'hôpitaux, etc., qui se sont institutionnalisées au niveau étatique. Et donc, c'est bien de voir le fruit qui se répand par l'institutionnalisation, mais si on veut rester fidèle, il faut revenir à la source. D'où est-ce que ça vient? Ce sont des gens qui ont été saisis par Dieu qui ont fait ce genre d'initiative. Pas toujours, hein. Toutes les coopératives du 19e siècle ne venaient pas de chrétiens, mais beaucoup venaient de l'esprit chrétien qui s'était répandu. Alors, nous étudions l'Europe comme un sujet théologique parce qu'elle fait partie de l'histoire du salut, et la tradition est assez ancienne. Le premier séminaire de questions disputées organisé par les étudiants ici à l'IET en 1989 portait sur l'identité chrétienne de l'Europe. C'était M. Jérôme Vignon qui était l'hôte principal. Et puis nous avons fait des séminaires de théologie fondamentale, donc en 2005, Europe, héritage et responsabilité. En 2008, Europe, laïcité et islam. En 2015, Europe, l'espérance, point d'interrogation. Et cette année, donc, Europe, quel avenir, où est demain? Alors nous allons pouvoir écouter 7 conférenciers, dont vous avez tous vu le programme, donc sur des défis, 7 défis qui se posent aujourd'hui encore à l'Europe. Et peut-être certains sont étonnés qu'il n'y ait pas de conférence sur le Brexit. Alors, je vais nous excuser tout de suite parce que pour aborder la question du Brexit et de l'après-Brexit, je crois qu'il faut s'approprier les fondamentaux de l'Europe. Il ne suffit pas d'être plongé dans le problème immédiat qui est causé par cette volonté du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Et ces 7 conférences nous permettront de nous approprier les fondamentaux de l'Europe, ces fondamentaux culturels et de foi. Pour l'actualité sur le Brexit, les journaux suffisent, l'IET n'a rien ajouté. Mais c'est l'occasion de dire que l'Union européenne, elle a une profondeur. Et c'est cela que nous allons essayer d'aborder par cette série de 7 conférences. Alors je présente M. De Veltere. Patrick De Veltere est actuellement le conseiller principal pour la politique sociale au Centre de stratégie politique européenne. Donc, Centre de stratégie politique européenne, c'est un organe de la Commission européenne, un think tank, comme on dit, donc un groupe de réflexion. Mais c'est un homme qui vient d'une expérience de terrain, si je peux dire. Il a été président du mouvement des travailleurs chrétiens belges, donc l'ancienne ACW, donc l'équivalent du MOC du côté néerlandophone, qui s'appelle actuellement Beweging.net. Donc 4,5 millions de membres, donc ce n'est pas rien. Et donc il a fait un doctorat en sciences sociales, je vous l'ai dit, il enseigne l'économie sociale, politique et société dans les pays en développement et la coopération internationale pour le développement. Donc il a eu l'occasion d'enseigner aussi au Canada et à Kinshasa. Voilà. Fort de votre expérience à la fois bien belge et maintenant européenne, nous sommes vraiment heureux de vous écouter sur le modèle social européen, ses valeurs, ses défis pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ok. Merci Président. Oui. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Partout. Ou est-ce que je dois utiliser le micro? Bon, ça facilite la vie, hein.
Donc je reprends le pouvoir, si vous voulez. Je signale que le déroulement des opérations se fera comme ceci. Monsieur De Veltere va nous parler le temps qui est convenu. Il n'y aura pas de pause. Et aussitôt après son intervention, et à chaque fois ce sera le même schéma, aussitôt après l'intervention principale du conférencier, un des professeurs de théologie dira en quelques mots comment résonne chez lui, théologien, ce qui vient d'être dit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme théologie de cet aspect des choses européennes. Très risqué comme pari, n'est-ce pas, parce que nous sommes un petit peu là en position d'acrobate. Hein. Et puis après, alors, un débat avec vous sur ce que M. De Veltere aura dit, ou même sur ce que le professeur en question aura osé avancer. Les étudiants théologiens aussi réagiront comme ils l'entendront, ainsi que vous. La parole alors sera donnée à tout le monde. Merci.
Ok, merci ma sœur. Alors si vous m'entendez bien comme ça, on ne va pas utiliser le micro. Alors effectivement, je m'appelle Patrick De Veltere, De Veltere pour les francophones, hein, si vous voulez, si c'est plus facile. D'ailleurs, en Afrique, je vais souvent en Afrique, effectivement, là-bas tout le monde m'appelle Papa De Veltere ou Papa Patrick, hein, c'est comme vous voulez. Bon, peut-être un peu sur mon background, peut-être le plus important c'est que j'habite à Leuven, et je suis d'origine de Loulès. Je suis père de 3 filles de 32, 30 et 26 ans. Et quoi encore, je suis vraiment un homme aussi de la société civile. Effectivement, j'ai eu 2 mandats comme président du mouvement ouvrier chrétien flamand. Et auparavant, j'ai travaillé à l'université dans le centre de l'Institut du Travail, qui est un genre de joint venture entre le mouvement ouvrier chrétien et l'Université de Leuven. J'ai été le directeur là-bas et j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur notamment la société civile émergente en Afrique, en Amérique latine et en Asie, mais aussi la société civile mature, disons, dans nos propres pays ici en Europe. Ça veut dire que j'essaie d'avoir des racines ici en Belgique et en Europe, mais en même temps, je veux aussi être un internationaliste. Et c'est un peu pour ça, je pense, que le président, il m'a demandé, après mes 2 mandats, de le rejoindre ici, effectivement, dans le centre qui est un genre de think tank. Nous sommes une 50aine de personnes qui travaillent sur tous les sujets qui sont importants pour la Commission. Il y a des collègues qui travaillent sur les questions économiques, d'autres sur le social, comme moi, par exemple, mais aussi sur le développement durable, sur la défense, sur la géopolitique, etc. Et nous donnons des conseils aux membres du cabinet du président, mais aussi assez souvent aux autres commissaires et les autres cabinets. Par exemple, dans mon cas, comme je travaille sur la politique sociale européenne, je travaille beaucoup avec le cabinet de Mme Thyssen, qui est la commissaire belge chargée de la politique sociale européenne. Et je travaille aussi beaucoup avec le cabinet de M. Mimica, qui est le commissaire responsable pour la coopération au développement. Alors, c'est ça un peu ce qu'on fait au quotidien. Effectivement, ce soir, je vais vous donner quelques éléments sur la politique sociale européenne. Et je dois dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'entrer dans un vif débat avec vous sur ce que vous pensez sur les défis européens et les questions sociales en Europe. Alors, je pense que ce qui est important à savoir, c'est que M. Juncker, lui-même, ayant un background aussi dans le mouvement syndical au Luxembourg, et il a aussi été le ministre du Travail à l'époque au Luxembourg, avant de devenir le Premier ministre, et avant aussi de devenir aussi un acteur très important sur le plateau européen. Lui-même, quand il a commencé son mandat il y a 4 ans, il a dit « je veux une commission politique ». Je veux une commission politique. Alors, beaucoup de gens se sont demandé « mais c'est quoi une commission politique ?» Alors, il a expliqué que effectivement, on a quelques grandes institutions européennes. Il y a évidemment le Parlement qui représente la population. Il y a le Conseil qui se réunit aujourd'hui et qui représente les États membres. Et puis, il y a la Commission qui, en quelque sorte, l'institution permanente, le ministère, disons, des institutions européennes. Et lui, il a dit, je veux être un président d'une commission qui soit beaucoup plus politique. Ça veut dire qu'elle aide à orienter les États membres et la politique en Europe. Et comme je l'ai dit, comme il avait ce background social, quand il a commencé son mandat, tout de suite, il a dit, et je veux aussi qu'on avance sur le terrain social, avec l'Europe aussi. Parce que l'Europe n'est pas seulement un projet d'intégration économique, c'est en même temps aussi un projet social et culturel. Et il était assez bien parti parce que dans la diffusion des portefeuilles, il est tombé sur, il n'est pas tombé littéralement, mais il est tombé sur Marianne Thyssen, qui vient d'un pays où effectivement on a une tradition d'une politique sociale quand même assez développée, avec la participation aussi, avec la société civile, avec les acteurs de l'économie sociale, les mutuelles, ainsi de suite. Alors, c'était pas par hasard qu'il a demandé à une Belge de gérer la portefeuille de la politique sociale. Ça faisait partie de ses pensées sur la repolitisation de la commission. Et puis il a pris un concept de l'OECD. Vous savez, l'OECD basé à Paris, c'est en quelque sorte le grand think tank des pays riches. L'organisation du OECD de la coopération pour le développement économique. C'est une 35aine de pays membres de l'OECD et eux, ils avaient développé la notion de la croissance inclusive et durable. Alors ne plus tout simplement une croissance pour la croissance, mais une croissance qui soit inclusive, ça veut dire que chacun doit bénéficier de cette croissance. Mais en même temps aussi, une croissance durable, ça veut dire qu'elle doit être équitable vis-à-vis de tous les parties prenantes. Ça veut dire aussi qu'elle doit prendre en considération les générations actuelles, mais en même temps aussi les générations qui vont encore venir après nous. Et alors lui, M. Juncker, il a adopté cette notion. Il a demandé à toutes les institutions et à tous les services de la Commission de se réorienter vers ce projet de croissance inclusive et durable. Il faut savoir aussi que les pères fondateurs de l'Union européenne, les pères fondateurs étaient en quelque sorte obsédés par la paix. Ils étaient obsédés par la paix. Et si vous lisez les traités de l'Union, vous allez voir que un des mécanismes les plus importants qu'ils avaient trouvé pour garantir la paix, c'était l'intégration économique. Si on a des liens économiques, commerciaux avec un pays, on va pas tirer dessus. Ça, c'était en quelque sorte l'idée. Si on veut la paix, on doit économiquement être en interaction. Mais pour ces pères fondateurs, cette intégration économique était aussi la base d'un projet social. Et encore, il y a très peu de gens qui le savent. Si vous lisez le traité, vous allez trouver plusieurs références à l'aspect social du projet européen. Pour eux, c'était la base des étapes providence. Pour garantir le développement des États providence dans tous les États membres, il fallait articuler les économies, faire en sorte qu'il y a une intégration du marché, qu'il y a du commerce, qu'il y a des transactions économiques. Et sur cette base-là, on pourrait garantir le développement de ces États providence. Mais si vous lisez les traités, vous allez aussi voir que la compétence pour développer une politique sociale, pour la plus grande partie, est au niveau des États membres. Ce n'est pas au niveau de l'Union même. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Conseil, ce n'est pas la Commission qui peut dire aux Bulgares comment ils doivent s'organiser et comment ils doivent développer leur système de protection sociale, par exemple, ou comment ils doivent organiser leur marché du travail. Ça, c'est les Bulgares même qui peuvent le décider comment ils le font. Et effectivement, chaque pays développe son propre politique sociale un peu d'une façon organique, dépendant de plusieurs variables, évidemment, la tradition, la culture, l'implication de l'État beaucoup plus dans un pays et dans d'autres pays beaucoup plus les partenaires sociaux. Bon, il y a beaucoup de variables qui jouent, évidemment. Mais si vous lisez les traités, vous allez voir qu'effectivement, la compétence pour développer une politique sociale relève en effet aux États membres d'abord. Mais il y a un système, ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau. Les États membres ont le plus de compétences, mais la Commission, le Parlement et le Conseil peuvent développer des mécanismes d'échange entre les différents États membres sur le social. Et c'est ça qui a été, disons, en effet, l'intelligence de M. Juncker et Mme Thyssen. C'était vraiment ça, de voir que il y avait une opportunité pour rediscuter le social au niveau européen. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et en 2017, à Göteborg, en Suède, il y a eu une grande conférence avec tous les chefs d'État, mais aussi avec les parlementaires européens, avec la société civile, les partenaires sociaux, etc. Et ils ont signé ce qu'on a appelé le socle européen des droits sociaux. Et j'ai amené quelques copies de cette brochure, mais c'est bon, c'est pas vraiment une brochure, hein, faut pas prendre ça au sérieux, c'est vraiment un document important qui est maintenant le guide pour tout ce qu'on essaie de faire. Il y en a quelques-unes en anglais, mais la plupart sont en français, vous allez voir. En effet, c'est notre guide maintenant, c'est notre guide. Et pourquoi le document il est tellement important? C'est parce qu'il a été signé par le président du Parlement européen. Et comme j'ai dit au début, le Parlement représente en effet les citoyens. Il a été signé aussi par le président du Conseil européen. Et comme j'ai dit, le Conseil représente les États membres. Et il a été signé par M. Juncker lui-même, parce que lui, il représente en effet la permanence du projet européen. Et de là que ce document est-il tellement important. Il a été aussi applaudi par la société civile. En effet, il y a eu, et c'est ça aussi la repolitisation de la politique européenne, il y a eu un débat avant d'écrire ce texte, il y a eu un débat avec la société civile. Il y a plus de 10 000 personnes à travers l'Europe qui ont participé à ce débat. Des gens qui l'ont fait par le créneau de leur syndicat ou de leur ONG, ou mouvement de femmes, ou même les écoles, les universités. Il y a eu beaucoup de contributions et beaucoup d'enthousiasme aussi pour ce projet. Même à ce point que quand le document, cette politique a été lancée en novembre 2017, que les représentants des entreprises européennes et les représentants des syndicats européens ont co-signé un document pour dire vraiment c'est effectivement ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. D'où l'importance de ce document, soutenu par le Parlement, soutenu par le Conseil de l'Europe, soutenu par la Commission, soutenu aussi par la société civile. Et le but, en effet, avec cette politique, ce qu'on appelle le socle européen des droits sociaux, le but, c'est de revenir avec cette idée que l'Europe, ce n'est pas seulement un projet économique, ce n'est pas seulement un projet de marché ou un projet financier, c'est en même temps aussi un projet social. Et on veut aller vers une Europe qui est beaucoup plus équitable, comme j'ai dit, inclusive et durable. Mais on peut se demander comment ça se fait que tout d'un coup, les pays membres sont d'accord d'avancer dans ce sens-là. Il faut voir, c'était vraiment pas facile. Les pays nordiques, par exemple, les pays scandinaves, disaient non, ça c'est pas le job de l'Europe de s'impliquer, parce que si l'Europe va s'impliquer, nous on a dans les pays scandinaves une politique sociale très développée, et l'Europe va nous forcer à diminuer notre politique sociale. Les pays de l'Est n'étaient pas d'accord, parce que les pays de l'Est disaient, s'il y a une politique européenne, politique sociale européenne, on va être obligé d'avoir beaucoup plus de protection sociale des travailleurs, on va être obligé de payer des salaires beaucoup plus élevés, et on va perdre notre avantage concurrentiel. Alors eux, ils n'étaient pas d'accord non plus. Alors, parlons des Britanniques, et on peut y ajouter aussi les Hollandais. Eux, de toutes les façons, ils étaient contre parce qu'ils sont contre tout. Hein. Alors, c'était pas du tout évident de développer une dynamique favorable à ça, mais quand même, on a réussi. Mais je pense aussi, et bon, effectivement, je suis sociologue, quand je réfléchis, et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'était possible de le faire maintenant, et peut-être pas il y a 10 ans, je pense que c'est parce qu'on est arrivé à la fin d'un grand et un long, longue vague politique. Une vague politique qui a commencé, je pense, dans les années 70-80, où il y a eu un paradigme qui a tout dominé, une façon de regarder les choses. Hein. Et ce paradigme, je pense, voulait nous convaincre, et je pense beaucoup de nous étaient aussi convaincus, qu'il fallait la privatisation, qu'il fallait la libéralisation, qu'il fallait que le marché domine et que le marché dirige. Et pendant 30-40 ans, on nous a demandé de le croire, et beaucoup d'entre nous, effectivement, on l'a cru. Mais ce paradigme, cette théorie nous disait, si on va dérégulariser par exemple le système financier, ça va nous apporter de la stabilité financière. Mais je ne dois pas vous dire, en 2008, on a bien su, il n'y avait pas de stabilité, il y avait volatilité. On nous a aussi dit que avec cette libéralisation, que ça impliquait aussi que les États pouvaient être, déconstruire leur appareil et laisser presque tout au marché, même les éléments, les questions sociales. Et on nous a essayé d'expliquer et de convaincre que le marché était un meilleur fournisseur de bien-être et de protection sociale et de services sociaux que les États. Mais qu'est-ce qu'on a vu après 20 ans, 30 ans? On a vu que beaucoup de gens ont été mis à l'écart et que beaucoup de gens ont perdu beaucoup de sécurité sociale. De là, je pense, un grand mécontentement auprès de la population. Une autre chose, je pense, que cette théorie a essayé de nous vendre comme idée, c'est que, automatiquement, si certains gens bénéficient du marché libéral, que tout le monde va en profiter. Le fameux trickle-down, le fameux ruissellement, on dit en français, je pense.
Ruissellement.
Oui, je pense que c'est pour moi. Mais vous avez bien dit, madame. Vous avez bien dit. Mais on a vu que c'est pas le cas. Ça ne s'est pas réalisé. On a vu de plus en plus de pauvreté. Vous savez que dans tous les pays européens jusqu'à présent, le nombre de sans-abri augmente. Sauf en Finlande. On peut y revenir pendant après la pause que la sœur va nous allouer. comment les Finlandais le font? Mais eux, ils ont quand même trouvé des mécanismes pour réduire le nombre de gens qui sont de sans-abri, qui doivent vivre dans les rues. Alors, tous ces éléments-là, pendant ces 30 ans, ont fait que les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein? On nous promet tellement de choses. Mais moi, je ne vois pas que moi-même, je suis plus en sécurité, que j'ai une meilleure protection, que mon salaire augmente. Rien de tout ce qu'on promet se réalise. De là, le mécontentement, le désenchantement d'une grande partie de la population. Et de là aussi, je pense, le fait que les gens tournent vers les populistes, que les gens s'habillent avec des gilets jaunes, commence à protester, ainsi de suite. Alors, tous les États membres, toute l'élite politique a été confrontée avec ce mécontentement. D'ailleurs, quand le monde politique traditionnel avait dit pendant 30 ans, 40 ans qu'il n'y avait pas d'alternative, there is no alternative, on dit en anglais, l'approche TINA, there is no alternative. Les mouvements populistes et les politiciens populistes ont dit il y a des alternatives. Regardez Trump, regardez Orban, ils disent il y a des alternatives. S'il y a des flux migratoires, on va construire un mur. S'il y a un problème avec les Chinois, on commence une guerre commerciale. Il y a des alternatives. Et les gens en avaient marre d'entendre, je pense, tout le temps qu'il n'y avait pas d'alternative pour la privatisation, pour la libéralisation, pour la financiarisation, et de là le mécontentement. Et je pense que c'est ça aussi que Juncker a pu utiliser comme argument. Il a dit à ses collègues politiciens nationaux, si on veut changer la perception dominante en Europe, il faut que nous aussi on dit qu'il y a une alternative. Il y a des alternatives. Et ça, c'est l'alternative. C'est de dire que l'Europe et le projet européen, et je suis content que le président l'a dit dans son introduction, le projet européen, c'est un projet qui est, qui est basé sur des valeurs, des valeurs effectivement chrétiennes. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement un projet marché, ce n'est pas seulement un projet commercial, ce n'est pas seulement un projet économique. Et vous allez voir que ici, ce projet socle européen des droits sociaux, en effet, se décline autour de trois thèmes. Le premier chapitre, c'est sur l'égalité des chances et accès au marché du travail. Et vous allez lire, il y a vraiment de belles choses qui se disent dans ce texte. Et encore une fois, ça a été co-signé par toutes les forces politiques européennes. Alors il y a vraiment des grandes promesses, et par exemple comme sur l'égalité entre les femmes et les hommes, hein, les égalités des chances, le soutien actif à l'emploi. Le deuxième chapitre, c'est un chapitre sur les conditions de travail équitables. Et là aussi, il y a des belles choses qui se disent, hein, entre l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, par exemple. Un environnement de travail sain, sûr et adapté. Et puis, troisième chapitre, sur la protection sociale et l'inclusion sociale. Où on parle effectivement de l'accueil de l'enfance et l'aide à l'enfance, et même aussi logement et aide aux sans-abri. Mais ça, c'est inclus. En effet, ce document est plein de promesses des États membres et des institutions européennes d'avancer sur le domaine social. On n'y est pas encore, mais ce sont des promesses, ce sont des engagements très fermes. On n'y est pas encore, mais M. Juncker et Mme Thyssen et toute la Commission, ils ont quand même développé des mécanismes pour assurer que ça ne reste pas lettre morte. Ouais. Il y a 27 initiatives légales qui ont été prises pour déjà concrétiser ce qui est dans ce document. Par exemple, pour tout ce qui concerne l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il y a une directive. Et encore une fois, ce n'était pas facile de convaincre les forces politiques, parce que les Nordiques, de nouveau, ils venaient et ils disaient, mais non, c'est pas ça, hein. On a bien voulu signer ce document, mais maintenant, vous n'allez pas quand même vous mêler dans notre système, parce que on a un système qui est déjà parfait. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut maintenant, au niveau européen, un autre système? Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les politiciens qui le disaient là-bas, c'était aussi les syndicats, c'était aussi les associations des employeurs. Les pays de l'Est disaient, mais vous venez quand même avec des choses, vous imposez des choses, nous on ne veut pas. Parce que si on a plus de protection sociale, par exemple, s'il y a plus d'équilibre entre le privé, la vie privée et la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on va faire avec notre avantage concurrentiel? Vous voyez, encore une fois, les Hollandais et les Britanniques ont dit de quoi vous vous mêlez, hein? De nouveau la même chose. Mais quand même, il y a eu 27 initiatives concrètes, législatives, qui ont été prises par cette commission. L'autre chose aussi qui a été faite, c'est que vous savez que chaque année, depuis la crise économique et financière, chaque année, il y a un dialogue entre les institutions européennes, notamment la commission, et les États membres. Ça s'appelle le semestre européen. C'est un nom qui ne couvre pas vraiment ce qui se fait, mais ça s'appelle le semestre européen. Je ne peux pas changer ça. Hein. Mais c'est quoi le semestre européen? En effet, c'est un long dialogue. C'est la Commission qui d'abord fait une analyse de ce qui se passe en Europe. Et il y a des chapitres par pays, puis les pays réagissent, puis la Commission réagit encore une fois, ainsi de suite. Jusque maintenant, on ne parlait que des aspects économiques, financiers et monétaires. Quand le déficit, par exemple, d'un État membre était trop élevé, le Conseil donnait des recommandations pour y remédier. Hein, quand il y avait des problèmes sur la balance de paiement, par exemple, ou dans le système financier, la Commission réagissait et puis il y avait un débat avec les États pour y remédier. Maintenant, pour la première fois, la Commission écrit aussi des chapitres pour chaque pays sur la politique sociale, mais pas seulement la politique, mais aussi les résultats de la politique sociale. Il y a un dialogue avec les États sur le social. En 2018 et 2019, parce qu'on ne peut pas discuter de tout, hein, on a décidé de se concentrer dans ce débat sur tout ce qui concerne les compétences des travailleurs et l'intégration dans le marché du travail. Et on a aussi décidé de se concentrer aussi sur la qualité du dialogue social. Et peut-être que l'année prochaine, on va prendre un autre sujet, peut-être l'égalité homme-femme, ou peut-être la question du sans-abrisme, bon, on choisira toujours des thèmes spécifiques pour avoir un débat avec les États, mais aussi avoir un débat collectif au niveau européen. Alors, l'autre chose aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, nous avons créé une autorité du travail européen, autorité européenne du travail. Là, cette autorité, on doit encore décider où elle aura son siège, mais cette autorité, en effet, doit faire en sorte que les institutions d'inspection du travail travaillent plus ensemble. Vous savez, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, il y a beaucoup de travail en noir, il y a beaucoup aussi de travailleurs qui vont dans un autre pays, un autre État membre, et ils font un travail qui n'est pas déclaré, ils n'ont pas de protection sociale, et vous avez cette problématique dans le bâtiment notamment, il est très répandu, mais aussi dans tout ce qui est le secteur du transport, aussi c'est très répandu. Alors avec cette autorité européenne du travail, on va essayer de faire collaborer les institutions d'inspection pour remédier à ce fléau. Ça c'est une autre initiative qui a été prise. Bon, je regarde un peu ma montre. Et je voudrais encore partager avec vous une chose parce que je pense que c'est ça vraiment le débat. Est-ce que les gens savent encore ce que c'est le modèle social européen? Et pourtant, on ne sait pas, mais et pourtant, je suis sûr que vous êtes d'accord avec certains éléments que je vais vous présenter, mais les Américains ne vont pas être d'accord, les Russes ne vont pas être d'accord avec ça, les Chinois ne vont pas être d'accord. Ça veut dire qu'il y a un modèle, à mon avis. C'est quoi ce modèle? En effet, à mon avis, notre modèle, c'est que on a adopté l'idée qu'il faut la croissance économique, mais pas inconditionnelle. Croissance économique doit aller de pair, selon, je pense, tous les Européens, avec des systèmes de protection sociale et des institutions sociales. Et c'est comme s'il y avait une coïncidence entre cette croissance économique et aussi ce modèle social. Il faut cette croissance économique pour pouvoir payer le modèle et le système social, mais si les gens sont bien éduqués, si les gens sont en bonne santé, c'est aussi bien pour la croissance économique. Je pense que quasi tous les Européens vont dire, bah oui, c'est évident. Il ne faut pas le dire aux Américains, les Américains vont dire, vous êtes communistes. Il ne faut pas le dire aux Russes, il ne faut pas le dire aux Chinois, ils vont pas piger ce que vous êtes en train de dire. La deuxième chose qui fait partie de notre modèle social européen, c'est le fait qu'on a dit, on y va effectivement pour cette croissance économique, mais ça doit aller de pair avec des systèmes de redistribution. Et tu vas n'importe où en Europe, vous allez trouver des systèmes de redistribution, pas les mêmes. C'est pas monolithe. Celui de l'Espagne est différent de celui de la Lituanie. Mais tous les deux, ils ont un système de redistribution. Et là aussi, c'est comme il y a une coïncidence divine qu'on peut trouver là, parce que pour redistribuer, il faut générer des revenus, il faut une croissance économique. Mais quand on redistribue, c'est bien aussi pour le système économique. Les gens qui sont riches et qui doivent, par biais des systèmes, des mécanismes fiscaux, rendre un peu leur richesse à l'État pour que l'État redistribue ça, s'ils ne devraient pas faire ça, ils allaient dépenser leur argent quelque part dans les îles de Bermude ou je ne sais pas où. Et maintenant, cet argent est redistribué. Ça va à la classe moyenne, ça va à la classe des travailleurs qui dépensent ici en Europe. Alors c'est bien, c'est une coïncidence fructueuse. L'autre chose qu'on est en train de découvrir aussi, et ça fait aussi partie de notre modèle social européen, c'est qu'il faut pouvoir réconcilier cette croissance économique avec le désir des gens du bien-être. Et moi, je suis très content, les Finlandais qui vont prendre la présidence la deuxième moitié de cette année, eux, ils vont mettre sur la table ce qu'ils appellent « economy of well-being », l'économie du bien-être. Et là aussi, mais c'est pas simple, mais je pense que tous les Européens sont convaincus que cette croissance économique qu'on a maintenant est assez souvent pas bien pour le bien-être des gens. Je donne un exemple très personnel. Moi, je souffre de l'asthme, hein, j'ai besoin de ceci, mais ça veut dire en même temps que quand j'ai mes problèmes, je suis moins productif. Alors, c'est pas bien pour moi, mais c'est pas bien pour l'économie non plus. Moi, j'étais le seul dans ma classe en école primaire d'avoir de l'asthme. Maintenant, c'est 1 sur 4 enfants qui ont des problèmes respiratoires. 1 sur 4. Ouais, on peut parler de l'asthme. Ça veut dire qu'on parle aussi de la pollution. Mais ça veut dire en même temps aussi que quand on parle bien-être, qu'on parle des burn-out. Hein, tout le monde parle maintenant de burn-out. D'ailleurs, à la Commission européenne, il y en a beaucoup, vraiment. Si on a le temps, je peux vous donner mes explications, mais ça va être plus tard. Sinon, la sœur ne va pas être contente. Elle a dit, c'est elle de bosser. Alors, notre défi maintenant, c'est comment réconcilier ce besoin de croissance économique aussi avec une croissance du bien-être des gens, que les gens se sentent bien, que les gens se sentent heureux, hein, que les gens se sentent intégrés dans la société, hein, qu'il y a moins de solitude, par exemple. Hein. Et ça, c'est le nouveau défi pour perfectionner notre modèle européen. Mais je pense que la quasi-totalité des Européens seront d'accord que c'est ça notre modèle européen, sauf que les gens ne le savent plus. Hein. Maintenant, je pense aussi qu'il y a un dernier aspect qui est extrêmement important dans notre système social. N'importe où on va en Europe, il y a un genre d'accord de qui doit faire quoi. Qu'est-ce qui est le rôle du marché, qu'est-ce qui est le rôle de l'État et qu'est-ce qui est le rôle de la société civile. Et là, ça varie. Et dans chaque pays en Europe, on voit que la société civile joue un rôle très important dans le maintien, le développement, l'exécution de ce modèle social européen. Chez nous, ce sont les mutuelles, pour ce qui concerne la sécurité sociale et l'assurance maladie. Pour nous, ce sont les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs, pour tout ce qui concerne le marché du travail. Hein. Et dans les pays scandinaves, ça va être différent, dans les pays de l'Est, ça va être différent, mais dans chaque pays, il y a quand même un genre de partage de tâches. Ce que personnellement, moi, en tant que chrétien, ce que moi je voudrais, c'est qu'effectivement, on reparle maintenant de ce modèle européen. Parce qu'effectivement, comme l'a dit le monsieur quand il m'a introduit, pour une grande partie, c'est l'inspiration chrétienne qui nous a amené à développer ce système. Ce n'est pas parce que le système est le plus parfait qu'on l'a choisi. On l'a choisi pour des bonnes raisons, parce qu'on était inspiré, on voudrait qu'effectivement tout le monde soit considéré comme un citoyen, comme les autres, et que tout le monde devait bénéficier de notre système économique et notre système social. C'est ça notre conviction. Une conviction que les Américains ne partagent pas avec nous, par exemple, ou les Chinois ne partagent pas avec nous. Et en Europe, vraiment, on partage cette vision. Alors, quand j'étais encore président du mouvement, moi, je parlais beaucoup avec nos membres, et je faisais toujours référence à l'Évangile, et notamment un paragraphe de Matthieu, là où il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus? Parce que même nous, en tant que mouvement social, même nous, mouvement de travailleurs, quand on a lutté pour certains mécanismes de redistribution, par exemple, il y avait ces effets Mathieu. Il y avait ces effets Mathieu. Prenons par exemple les bourses d'études. Hein, les bourses d'études qui ont aidé à démocratiser nos institutions et notre système universitaire, par exemple. Si on voit qui recevait les bourses, c'était assez souvent pas ceux qui en avaient besoin. C'était la classe moyenne qui en recevait. Ça, c'est l'effet Mathieu. Et je pense que dans beaucoup de politiques qu'on mène, il y a ces effets Mathieu qui jouent. Ce sont ceux qui ont déjà qui en profitent encore plus. Ce sont ceux qui ont la connaissance du système, parce qu'il faut d'abord connaître le système. C'est ceux qui ont les tuyaux, comme on disait à l'époque, hein, qui pouvaient profiter des systèmes. Mais ceux qui n'avaient pas ce capital social, ce capital de réseau, cette connaissance, pour lequel, en effet, à l'origine, la politique avait été développée, eux, ils ne recevaient pas. Alors, moi, je disais toujours, il faut remédier cet effet Mathieu, et le remédier avec le mécanisme de Luc. Parce que dans Luc, parce que dans Luc, il écrit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui que l'on a beaucoup confié. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ça veut dire que les gens avec les plus grandes épaules doivent porter plus de poids. Ça c'est le message. Hein. Et quand je dis ça, je ne fais pas seulement référence au capital financier que certains ont et certains autres n'ont pas. Je fais aussi référence au capital de talent que les gens ont. Tout le monde a des talents, mais si on t'a confié beaucoup de talents, tu as l'obligation aussi de rendre ça et de faire en sorte que toute la société profite du fait que toi, tu as reçu ces talents. Ma soeur, je vais terminer ici. Je m'excuse d'être un peu trop long. Ok, merci.